France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. C'est une mesure qui avait failli passer inaperçue dans le budget, tout juste votée finalement. Face à la pression devenue trop forte, le gouvernement a fait machine arrière. Hier soir, le ministre de l'économie a suspendu la hausse de TVA pour les petits entrepreneurs, soit une perte de 400 millions d'euros de recettes qu'il faudra bien sûr compenser. À suivre également les premiers résultats des élections aux chambres d'agriculture. On se demandera aussi pourquoi François Bayrou entend changer de mode de scrutin, les trois plus grandes villes de France. Et puis l'actualité à l'étranger avec notre invité, on reviendra sur la situation en Cisjordanie occupée après les menaces d'annexion à peine voilées que Donald Trump fait désormais planer au-dessus du territoire palestinien. Enfin, pour la première fois hier, le photographe syrien des morgues de Bachar al-Assad, celui qui il y a 11 ans avait fourni les premières preuves officielles de la torture pratiquée sous le régime du dictateur, témoignait à visage découvert. De la France insoumise au Rassemblement national, en passant par certains élus de la majorité, la mesure était décriée comme une menace pour les petites entreprises. Et hier, face à cette levée de boucliers de politiques de tous bords, mais aussi de plusieurs organisations professionnelles, le gouvernement a donc fini par reculer en annonçant purement et simplement la suspension de la baisse du seuil d'exemption de TVA dont bénéficient les micro-entrepreneurs. Initialement, le budget 2025 prévoyait pour le 1er mars prochain d'abaisser de 37 500 à 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel, le seuil en deçà duquel les micro-entreprises ne sont pas assujetties à la TVA. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors plusieurs menaces avaient été avancées, le risque que les micro-entreprises facturent plus cher, mais aussi que cette mesure ne favorise le travail au noir et même que ce dispositif entraîne carrément des faillites. Sauf que même abaissé à 25 000 euros, ce nouveau seuil aurait épargné en réalité la majorité des micro-entrepreneurs.
Oui, parce que la réalité de ce statut de micro-entrepreneur créé il y a 16 ans déjà recoupe énormément de réalités et de métiers différents, notamment des centaines de milliers de Françaises et de Français qui ont une activité et donc des revenus très faibles et irréguliers. Mais ce que montre le tollé de ces derniers jours sur cet abaissement des seuils à partir desquels les micro-entrepreneurs devraient facturer la TVA à leurs clients, c'est que ce statut a acquis un vrai poids économique et aussi politique jusqu'à faire plier donc le gouvernement qui suspend la mesure pour concertation, cette disposition donc si lourde de conséquences, puisque si la mesure validée dans le budget n'avait pas été suspendue in extremis hier soir, les seuils de chiffre d'affaires annuels à partir desquels les micro-entrepreneurs indépendants et entreprises individuelles auraient dû facturer la TVA et la reverser à l'État seraient passés de 80 000 euros pour les activités de commerce et d'hébergement, 50 000 euros pour les avocats et 37 500 pour les services, à un seuil unique de 25 000 euros pour tous, et donc des centaines de milliers de professionnels auraient dû réorganiser complètement leur activité, leur comptabilité, leurs tarifs auraient augmenté de 20%, ou alors ce serait leur marge qui aurait fondu d'autant. Il faut dire enfin que les organisations qui représentent les PME et les artisans, le RN aussi, étaient favorables à cet abaissement des seuils pour limiter la concurrence, disait-il, des micro-entrepreneurs. Mais force est de constater que pour cette fois, la voix des artisans a pesé moins lourd que celle des micro-entrepreneurs et des indépendants auprès du gouvernement qui s'assoit au passage sur entre 400 et 700 millions d'euros de recettes fiscales cette année.
Merci Camille Manière. Comme le dit le proverbe, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et hier, à l'issue d'une campagne qui n'avait rien de véritablement champêtre, dans un paysage rural fragilisé par les crises successives, ont été rapportés les premiers résultats, encore provisoires, des élections aux chambres d'agriculture. Résultats dont il ressort déjà que les bonnets jaunes de la coordination rurale, adeptes des opérations coup de poing et porteurs d'un discours volontiers proche de l'extrême droite, ont effectué une percée inédite de nature à bousculer l'hégémonie historique de l'alliance majoritaire FNSEA Jeunes Agriculteurs. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Dans le détail, que nous montrent ces résultats?
On constate d'abord un plus grand éparpillement des votes entre les syndicats. À ce stade, la coordination rurale remporte 14 chambres, elle en avait 3 jusqu'ici. La Confédération Paysanne gagne, elle, l'Ardèche et la Guyane. Cela s'ajoute à l'unique chambre qu'elle dirigeait, à Mayotte, où le scrutin a été reporté. Deux listes indépendantes s'imposent en Ariège et en Haute-Garonne, c'est inédit. On voit aussi une forme de territorialisation. La coordination rurale, porteuse d'un discours anti-normes et de dégagisme, l'emporte en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, une zone où les difficultés ont favorisé une campagne de colère contre la FNSEA, reconnaît Arnaud Rousseau, son président.
C'est clairement aujourd'hui au cœur de ce que nous appelons la zone intermédiaire, c'est-à-dire
La zone dans laquelle les agriculteurs ont des terres à plus faible potentiel avec du défi climatique de manière importante, aujourd'hui des difficultés économiques majeures, et que les gens s'interrogent sur leur avenir et leur capacité à surmonter cette difficulté extrême. Ce bloc territorial montre bien que dans ces régions, il y a un sujet économique majeur.
La Confédération paysanne, qui défend un modèle agroécologique, fait recette dans les territoires outre-mer et les zones montagneuses. Elle revendique un score global de plus de 20%, mais ces bons résultats ne se traduiront toujours pas à la tête des chambres en raison du mode de scrutin, déplore Laurence Morandola, la porte-parole.
Ça pose toujours la question de la gouvernance de l'ensemble des institutions agricoles qui continuent à être tenues par la liste qui est arrivée en tête. On constate évidemment un net recul de la FNSEA qui va finir en dessous de 50% au niveau national, mais ce mode de scrutin fait qu'ils vont encore garder 80% des chambres. Et ça, c'est absolument pas normal. On doit remettre à plat la gouvernance des instances agricoles pour que chacun soit entendu à hauteur de son scrutin.
La participation est stable, mais assez faible, autour de 45%. Le nombre de votants, lui, ne cesse de baisser. Vu la démographie agricole, il y a souvent moins de 2000 suffrages exprimés par département.
Merci Catherine Pétillon.
Les débats promettaient d'être particulièrement houleux.
Et de fait, ils l'ont été, marqués par des suspensions de séances et autres rappels incessants au règlement, sans parler du florilège d'invectives de chaque côté de l'hémicycle. Toujours est-il qu'hier, la proposition de loi visant à durcir les restrictions au droit du sol à Mayotte, un texte porté par la droite et âprement combattu par la gauche, a finalement été adopté avec les voix des macronistes et du Rassemblement National. Et déjà, certains veulent aller plus loin encore quand l'extrême droite dit vouloir sa suppression en métropole. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, estime que le débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol dans notre pays. Quant au président du groupe Les Républicains, Laurent Wauquiez, il salue un premier pas et dit souhaiter aller plus loin sur le reste du territoire.
Après le vote du Sénat, le budget a été officiellement adopté hier.
De quoi mettre un terme, du moins temporairement, à l'impasse politique et permettre ainsi à François Bayrou de commencer à imaginer la suite de son action à Matignon. En l'occurrence, l'une des toutes premières lois que le Premier ministre entend faire voter par le Parlement se nomme la loi PLM pour Paris-Lyon-Marseille. Alors de quoi s'agit-il? Faire élire les maires des trois plus grandes villes directement par les électeurs, contrairement au mode de scrutin actuel où l'on vote pour des maires d'arrondissement qui ensuite désignent, eux, le maire central. En réalité, cette réforme est un vieux projet d'Emmanuel Macron qu'on pensait abandonner, mais que François Bayrou a donc décidé de remettre au plus vite à l'agenda. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
La réforme du mode de scrutin pour Paris, Lyon et Marseille fut imaginée par Emmanuel Macron au lendemain des municipales de 2020, mais finalement jamais mise en œuvre. C'est donc à la surprise générale que François Bayrou la ressort des cartons.
C'est un sujet très important pour le Premier ministre.
Sophie Prima est la porte-parole du gouvernement.
On souhaite le faire dans un délai qui soit un an avant les élections municipales de mars 2026. Donc ça va venir très très vite, au mois de mars.
Actuellement, on élit des conseillers dans un arrondissement ou dans un secteur qui ensuite élisent le maire de la ville. C'est notamment ce qui a permis à Bertrand Delanoë en 2001 d'être élu avec moins de voix que son adversaire, explique le député du camp présidentiel Sylvain Maillard, co-auteur de la proposition de loi. Il faut donc, selon lui, corriger cette anomalie démocratique.
C'est un mode de scrutin qui a été inventé en 82 par Gaston Defferre pour gagner Marseille. Je crois qu'on est arrivé à un moment, il faut qu'on revienne dans la normale de toutes les autres villes en France et de faire en sorte d'avoir un mode de scrutin où celui qui a le plus de voix gagne.
Cette loi, par conséquent, va générer deux scrutins au lieu d'un seul. Un pour le maire de la ville, un autre pour les maires d'arrondissement. Ce qui serait contraire à l'aspiration des électeurs, selon le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud, désigné par Anne Hidalgo pour lui succéder en 2026.
Dans une grande ville comme Paris, il est absolument essentiel que l'élection du maire de Paris procède d'élections d'arrondissement pour justement garantir la proximité, et sa modification entraînerait un affaiblissement des arrondissements, une recentralisation qui me paraît dangereuse dans une ville comme Paris qui a plus de 2 millions d'habitants et où l'attente de proximité est tout à fait légitime.
Les détracteurs de la réforme dénoncent également une loi opportuniste à un an des municipales visant à ravir ces trois villes à la gauche.
Midi et 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Barbe grisonnante, costume sombre et chemise blanche, il a pour la première fois hier révélé son identité. Celui que le monde entier surnommait César s'appelle Farid El-Mazan. C'est lui qui, en 2014, après la répression brutale par le pouvoir de Bachar al-Assad des manifestations pro-démocratie en Syrie, avait fait défection en emportant au péril de sa vie plus de 50 000 clichés effroyables, documentant et incriminant ainsi les services islamistes du régime de Damas pour crimes contre l'humanité. Et 2 mois donc après la chute de la dictature, eh bien, ce transfuge de la police militaire célébré depuis en héros est sorti, Étienne Monin, de l'anonymat.
Sur la chaîne Al Jazeera, la caméra s'attarde sur les mains du Syrien avant de remonter sur son visage comme pour rappeler la décennie de clandestinité dans laquelle cet homme a dû se plonger pour échapper à la vengeance du régime. Parce que les révélations de Farid El-Mazan, de son vrai nom, sont un élément clé dans la chute du régime de Bachar al-Assad. La publication des photos dans la presse est un choc. Elle a lieu début 2014. On voit des corps et des corps de Syriens suppliciés. Ils ont été victimes de la faim, de torture et de maladie. Ce catalogue morbide de photos ne révèle pas l'existence de la torture. Il confirme qu'elle est utilisée à échelle industrielle. Il expose à la face du monde la sauvagerie du régime. Il est incontestable, validé par le travail de plusieurs procureurs et par l'ONG Human Rights Watch. L'homme qui révèle ses secrets enfouis des services de sécurité syriens est un adjudant-chef de la police militaire. Son travail consiste à classer ses photos, il décide en sous-main de les copier sur des clés USB avec la complicité de son beau-frère proche de la rébellion. Farid El-Mazan parvient à s'exfiltrer. Au total, il sort 28 000 clichés de morts qui correspondent à 6 700 personnes, dont 100 enfants. Depuis, il vit dans la clandestinité. Ces révélations ont alimenté les poursuites judiciaires et ont permis l'adoption d'une loi aux États-Unis qui sanctionne sévèrement le régime syrien.
Jusqu'à quel point Donald Trump réussira-t-il à redessiner seul la carte du Proche-Orient à coups de grands traits de crayon ravageurs et de revendications délibérément excessives, en cherchant ainsi à consacrer au fond le droit du plus fort? Le président américain prend surtout le risque d'attiser davantage encore la haine entre Palestiniens et Israéliens. Déjà, malgré le tollé international provoqué par sa proposition d'une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza, Israël a dit préparer un plan pour un départ volontaire des Palestiniens de l'enclave. Et ça n'est pas tout, puisque sans même préjuger des conséquences possibles de ces déclarations tonitruantes sur le maintien d'un fragile cessez-le-feu, le locataire de la Maison Blanche a également laissé planer le doute sur un éventuel soutien de son pays à l'annexion de la Cisjordanie par l'État hébreu. Alors, très concrètement, quel serait l'impact d'une telle prise de position américaine en faveur de l'annexion? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS et professeur aux séries de Sciences Po. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Donald Trump a fait savoir qu'il se prononcerait donc sur le sujet dans les 4 prochaines semaines. Récemment, le journal de gauche israélien Haaretz évoquait un changement de paradigme pour tout le Moyen-Orient. Est-ce que vous souscrivez à cette formule?
En tous les cas, si les États-Unis donnaient un aval clair et net à l'annexion par Israël, soit de l'entièreté de la Cisjordanie, comme ou alors d'une partie, on parle de 40%, il est évident que ce serait quelque part un séisme diplomatique, parce que une chose est que des groupes extrémistes, évidemment d'Israël, promeuvent cette idée et ils le font depuis très longtemps. Une autre chose serait de voir cette idée entérinée par les États-Unis.
Alors effectivement, une partie de la coalition au pouvoir en Israël est constituée de fervents soutiens à l'annexion. Quelle est la position du gouvernement sur cette question ?
Alors, il n'y a pas de position officielle du gouvernement, mais bien évidemment, étant donné que le gouvernement actuel est quand même constitué de groupes ultra-radicaux, enfin, avec en particulier quand même des groupes ultra-radicaux, et même en réalité au sein du Likoud, beaucoup sont favorables aussi à l'annexion, on peut dire que, de fait, si vous regardez la majorité des membres du gouvernement actuel, ils sont favorables à l'annexion de la Cisjordanie, au moins en partie.
Et est-ce que cette annexion rencontrerait un grand soutien au sein de la population israélienne cette fois-ci ?
Non, je pense qu'il y aurait une réalité de la division, mais le problème c'est que évidemment ce qui compte, comme dans tous les États, c'est ceux qui ont le pouvoir, et donc ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sont clairement favorables à l'annexion et de fait à l'extension donc de la souveraineté d'Israël en Cisjordanie. Cela dit, il faut bien dire que ce serait entériné aussi assez largement en état de fait, puisque quand même 40% de la Cisjordanie aujourd'hui continue à être contrôlée uniquement par par Israël. Mais là aussi, il y a une différence entre un contrôle qui reste un contrôle, pour le moment en tous les cas, non validé, de facto, et un contrôle qui se ferait en étant validé juridiquement, au moins par le droit israélien.
Alors les déclarations de Donald Trump ont suscité la réprobation quasi unanime de toutes les chancelleries du monde. Est-ce que le droit international peut permettre de s'opposer à l'entreprise de dérégulation des relations diplomatiques que semble avoir enclenché Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche? Hier encore, on rappellera que le président américain a d'ailleurs signé un décret prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, hein, ce dont s'est aussitôt félicité Israël.
Alors malheureusement, je dirais que il est important que le droit international soit réaffirmé, surtout quand vous avez un dirigeant de la première puissance du monde qui en effet le foule quasiment systématiquement au pied. Il faut le réaffirmer, mais malheureusement, ça n'est pas une arme suffisante pour contrer une politique. Donc si on veut contrer une politique, il faut qu'il y ait aussi une alliance politique d'autres forces à travers le monde, d'autres États clairement qui s'y oppose et fasse entendre un son de cloche différent. Sinon, le droit international servira malheureusement juste à crier dans le désert.
Une dernière question, quelques mots, Alain Diakov. Toutes ces déclarations à l'emporte-pièce de Donald Trump sont-elles de nature à hypothéquer l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ?
C'est évidemment le risque. C'est évidemment le risque que ça puisse peser sur l'accord et sur les prochaines étapes. Même si évidemment le Hamas et Israël a quand même intérêt à ce qu'ils se poursuivent en un certain sens. Mais ce qui me semble assez clair, c'est que Netanyahou, fort de ce qui lui a été dit à Washington, entend un petit peu maintenant vraiment pousser les choses.
C'est bien noté. Merci Alain Diakov, directeur de recherche au CNRS, professeur aux séries de Sciences Po, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
À quelques heures seulement de l'échéance, la justice américaine a réussi hier à suspendre l'ultimatum lancé par Donald Trump aux plus de 2 millions de fonctionnaires.
Oui, ceux-ci avaient jusqu'à minuit hier soir pour se décider, signer ou non la proposition de démission différée au 30 septembre prochain avec la promesse de garder d'ici là leur salaire et l'ensemble de leurs avantages sociaux. Et finalement, ils n'auront pas eu à choisir d'accepter ou pas de démissionner, cet ultimatum comme une flèche de plus lancée par Donald Trump dans son offensive d'ampleur pour tailler sévèrement dans les dépenses publiques a été suspendue temporairement par l'injustice. Une nouvelle audience a été programmée à lundi. Toujours s'agissant des fulgurances imprévisibles du nouveau locataire de la Maison-Blanche après la question des droits de douane, c'est désormais la zone d'influence des États-Unis et de la Chine en Amérique latine qui agite les deux premières puissances économiques de la planète. Dès son investiture, Donald Trump avait dit vouloir prendre le contrôle du canal de Panama, stratégique pour le commerce mondial, une manière de contrer ce qu'il présente comme l'influence de la Chine. Or, après la tournée du secrétaire d'État américain Marco Rubio en Amérique centrale, sa première en tant que chef de la diplomatie américaine, le président panaméen a confirmé hier le retrait de son pays du projet d'infrastructure chinois des nouvelles routes de la soie. De quoi provoquer ce matin la colère de Pékin qui dénonce l'intervention flagrante de Washington. Précision depuis Pékin de Sébastien Berriot.
Tout est parti des nouvelles accusations de Donald Trump sur l'influence supposée de la Chine sur le fonctionnement du canal de Panama. Dossier prioritaire pour Washington, ce n'est pas un hasard si le nouveau secrétaire d'État Marco Rubio a réservé au Panama sa toute première visite à l'étranger. Et la pression américaine a été pour le moins efficace. Washington a convaincu le président du Panama de sortir du grand projet chinois des nouvelles routes de la soie. Vive réaction ce matin du porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian. Il dénonce une mentalité de guerre froide de la part des États-Unis.
La Chine exprime sa ferme opposition au comportement des États-Unis qui noircissent et sapent la coopération dans la construction des nouvelles routes de la soie par la pression et la coercition.
Colère d'autant plus forte des Chinois que l'Amérique latine est considérée par Pékin comme une terre de conquête. En novembre dernier, Xi Jinping s'était rendu au Pérou pour inaugurer un énorme port en eau profonde, censé devenir une vitrine pour les investissements chinois. La décision du Panama est un vrai coup dur pour Pékin et une vraie victoire pour la nouvelle diplomatie Trump.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert et souvent pluvieux, à de rares exceptions, notamment sur le Roussillon et la Corse. Par ailleurs, l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère seront placées en vigilance orange, neige, verglas à partir de ce soir minuit. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.